Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ils sont plus de 1,5 million d'enfants à vivre dans cette situation. L'homme à la maison, voire la femme, n'est pas papa ou maman. Les frères et sœurs le sont parfois à demi. On appelle cela les familles recomposées, une réalité qui ne cesse de grandir en France, quand un couple sur trois divorce et même un couple sur deux dans les grandes villes. Une situation qu'il s'agit d'accompagner, tant du côté du couple que du côté des enfants, car si chacun aurait certainement préféré qu'il en soit autrement, il faut faire face au réel et aimer au plus juste. Vite couple, vite famille. Les familles recomposées aujourd'hui sont à l'honneur avec autour du plateau Marie Audebinet, sexologue, conseillère conjugale et familiale. Bonjour.
Bonjour Emmanuel. Bonjour
et
à tous.
Et Sébastien Dex, psychopraticien, qui devait être avec nous puisque c'est votre compère, mais qui est malade. On l'excuse bien volontiers. Alors, les familles recomposées. Je me suis plongé dans quelques études, entre autres une étude donc de l'INSEE 2013, qui donne les chiffres suivants. Il y aurait donc 1,5 million d'enfants, comme je le disais en introduction, de moins de 18 ans qui vivent dans 720 000 familles recomposées. Je donnerai quelques autres chiffres. Les familles dites traditionnelles, 5,4 millions en France, et les familles recomposées, 1,5 million. Donc, c'est une minorité, mais c'est une minorité grandissante. Est-ce que vous avez un premier commentaire, soit sur ces chiffres, soit sur ces qualificatifs ?
Alors, c'est vrai que ça, c'est en croissance. Les familles recomposées sont en croissance, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Je rappellerai juste qu'au niveau historique, les familles recomposées ont toujours existé, puisqu'il y a eu des veuvages tout au long de l'histoire, et que régulièrement, les hommes veufs, quand leur femme mourait en couche ou très jeune, se remariaient. Donc les familles recomposées ont toujours fait partie du paysage sociétal. La différence maintenant depuis les années 70, c'est qu'on est face à des familles recomposées, non pas suite à des veuvages, mais suite à des divorces. Donc ce qui veut dire qu'en fait, les deux parents sont toujours vivants et que l'autorité parentale continue d'être partagée et d'exister au-delà de la séparation et que l'enfant a toujours les deux référents, les deux personnes avec lesquelles il a créé un lien affectif et dont il a besoin, en fait, tout au long de sa croissance.
Créer un lien affectif et qui sont ses deux parents biologiques.
Exactement. Donc, c'est vrai que c'est un réaménagement des liens et c'est un réaménagement aussi de l'exercice de l'autorité parentale au-delà de la séparation du couple.
Alors, si vous voulez bien, on va faire un peu d'histoire, mais je voulais que vous nous fassiez part, du commentaire que vous aviez sur la terminologie famille traditionnelle, famille recomposée, famille monoparentale. Aujourd'hui, il faudrait utiliser d'autres qualificatifs et ça vaut le coup de le souligner.
Alors, d'un point de vue sociologique, la famille traditionnelle, c'est la famille qui est issue en fait du patriarcat qu'il y a eu dans notre société pendant plusieurs siècles et qui a été longuement étudiée, surtout au 19e, qui a continué à exister jusque dans les années 70. Et aujourd'hui, on parlerait de ces familles comme une famille souche, c'est-à-dire là où il y a le lien biologique qui s'exerçait entre les parents et l'enfant. Et on est aujourd'hui plus dans une terminologie de famille moderne, contemporaine, qui va permettre de recouvrir l'ensemble des formes de famille qui existent. Donc la famille monoparentale, la famille recomposée, la famille homoparentale, tout ce qui existe aujourd'hui, toutes les formes de famille qui se présentent dans la société, avec des couples mariés et non mariés, et qui permet en tout cas de répondre à ces différentes formes.
Alors, Marie Audebinet, il s'agit de stigmatiser personne, mais quand même, dans cette radio, on a quelques libertés de parole, alors on en profite. Est-ce que derrière ces terminologies, il n'y a pas une manière d'accompagner la réalité, mais de la transformer un petit peu? C'est souvent le reproche que l'on fait, par exemple, à des terminologies comme la gestation pour autrui, au lieu de voir gestation dite altruiste, au lieu de parler de mère porteuse. Famille moderne, évidemment, ça fait mieux que famille traditionnelle, ou la famille traditionnelle qui en est réduit à être une famille souche comme des cellules souches. Faut-il s'inquiéter de ces dérives sémantiques ?
Alors, on peut en effet les interpréter comme des dérives sémantiques. Je pense qu'on est aussi dans une lecture. Alors, je vais prendre un peu de distance par rapport à ça, juste pour essayer de remettre le contexte. Quand on parle de famille traditionnelle qu'on parle du coup d'un certain patriarcat, on est loin des liens affectifs qui ont voulu être créés, au fait, entre les parents et les enfants. Autrefois, il y avait peu de liens entre le père et ses enfants. enfants d'un point de vue affectif. Depuis les années 70, les pères ont pris une place bien plus importante dans ce lien-là. Et je pense que c'est ça aussi que recouvre un peu cette terminologie de famille moderne, c'est de dire qu'il y a eu un changement de positionnement et un changement d'attente, une évolution des attentes. Parce que finalement, on en parlait tout à l'heure tous les deux, mais les couples, à partir du 19e siècle, ont commencé à se former non pas que pour des intérêts familiaux, mais surtout parce qu'il y avait un sentiment amoureux. Et c'est quand même ce que l'Église catholique a valorisé de plus en plus au cours du XXe siècle et valorise encore aujourd'hui au XXIe siècle.
Ou depuis 2000 ans. C'est...
Voilà. Mais en tout cas, ça prend forme dans les écrits et dans les paroles, beaucoup plus maintenant. Et donc finalement, les familles d'aujourd'hui répondent à ça. C'est-à-dire qu'elles sont attachées à ce que ces liens affectifs existent, soient suffisamment forts pour que chacun y trouve son bien-être dans le foyer, dans la famille. Ce qui se passe, c'est que à force de mettre autant le lien affectif en valeur, mais quand il y a une séparation, c'est d'autant plus blessant. Et quand il y a une recomposition de famille, c'est d'autant plus compliqué.
Alors, ça c'est pour l'évolution de la famille. Peut-être on pourrait rajouter, je le cite et je le redirai avant la pause, « Petite histoire du couple et de la sexualité ». C'est un livre de Michel Rouche, historien, qui a monté l'Institut de la Famille à la demande de feu le cardinal Lustiger à Paris et qui décrit bien cette manière dont le christianisme a en fait évangélisé l'amour au long des siècles, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire, et que la fin du 19e siècle a marqué donc le début de ces mariages systématiques, mariages d'amour. Faut-il ajouter d'autres choses à propos de l'évolution de la société ? Vous avez parlé un peu de l'après-guerre, cette évolution dans les années 70, cette crise donc quand même de la famille qui a été conjointe avec la révolution culturelle de mai 68. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a une forme de stabilisation aujourd'hui dans les divorces depuis les années 2000, ces chiffres qu'on cite, une famille sur deux, un couple sur deux qui divorce à peu près, en tout cas dans les grandes villes au moins à Paris, et un sur trois en France. Est-ce qu'il y a une forme de stabilisation ?
Actuellement, oui. Non, je dirais que depuis une dizaine d'années, on est à peu près sur les mêmes taux. On a une forme de meilleure acceptation de ces phénomènes au niveau social et dans les familles. Et il y a une meilleure prise en compte, du coup, des impacts. Et d'un point de vue psychologique pour les conjoints, comme pour les enfants, c'est quand même de mieux en mieux accompagné. Ça ne veut pas dire que ça reste plus léger, hein, pas du tout, mais en tout cas, la prise en compte est beaucoup plus facile. Et du coup, on est quand même sur des situations qui sont mieux vécues. Voilà. Encore une fois, ça n'enlève en rien la souffrance que ça peut apporter aussi bien aux conjoints qu'aux enfants lorsqu'il y a une séparation.
Marie-Aude Binet, quels sont les moments où l'on se sépare ? On a l'habitude de dire que c'est soit au bout de 3 ans, comme le dit Frédéric Becbédé, parce que l'amour disparaît, soit c'est la crise de la quarantaine, soit c'est quand les enfants partent, c'est ça ?
Il y a 3 grandes périodes durant lesquelles le couple est fragilisé. Dans les 5 premières années de sa vie, alors je ne parle pas forcément que des personnes mariées, hein, je parle des personnes qui vivent en couple. Et après, il y a à peu près entre 15 et 20 ans de vie commune. Et ensuite, au moment de la retraite. Ce sont 3 grandes périodes fragiles dans lesquelles il y a le plus de séparation. Et ce sont des périodes, du coup, où on voit aussi des recompositions. Aujourd'hui, même des personnes de 65 ans qui se séparent peuvent recomposer une nouvelle vie de couple et du coup mettre en commun, même si leurs enfants ont quitté le foyer, qu'ils sont eux-mêmes mariés, il va y avoir une recomposition familiale.
Est-ce que, du coup, cette crise du couple, et donc d'une certaine manière aussi de la famille, c'est autre chose que la fin de la phase du dégrisement amoureux, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que les couples, en fait, seraient parfois se formeraient trop jeunes ou trop tôt, il y aurait une forme d'immaturité dans ces couples, et ce qui donnerait lieu à des divorces derrière, ou est-ce que c'est une idée très préconçue ?
Alors, c'est pas une idée très préconçue, il y a, en tout cas, dans la tranche des 15-20 ans de vie commune qui se séparent, en effet, une grande proportion de couples, de conjoints qui se sont rencontrés très très jeunes et qui n'ont pas pris le temps de se construire en tant qu'adultes, en tant que jeunes adultes, et qui finalement sont dans un sentiment d'étouffement dans leur vie conjugale et qui ont la sensation qu'ils ont besoin de vivre une certaine liberté. Et c'est pas qu'ils sont dans le rejet de leur conjoint ni contre le conjoint, mais ils ne peuvent plus rester dans cette situation-là. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que ces couples-là, enfin ces conjoints-là, lorsqu'ils se séparent et qu'ils recomposent une nouvelle vie de couple, font énormément de travail pour que cette vie de couple vraiment fonctionnent le plus correctement possible. C'est-à-dire qu'ils tirent de leur expérience passée du positif en se disant « je vois les erreurs que j'ai pu faire, aujourd'hui j'ai envie d'avancer ». Donc c'est vrai que dans nos cabinets, nous avons de plus en plus de couples recomposés qui viennent parce qu'ils ont besoin de stabiliser leur nouvelle vie conjugale et aussi parce qu'ils ont envie d'apprendre à mieux se positionner d'un point de vue éducatif vis-à-vis des enfants.
J'ai même trouvé dans un article les qualificatifs suivants. Ils éviteront la tentation de la passion-fusion. Ils sont tellement modestes et réalistes qu'ils sont déprimants, les deuxièmes couples, dit le journaliste en souriant. Ce n'est plus l'amour toujours, mais c'est toujours l'amour. J'ai trouvé l'expression heureuse. Alors, quelles sont les... Est-ce que vous pouvez prendre quelques situations quand même avant qu'on voit les grandes questions que ça pose, avant cette première pause musicale, avant une première pause musicale, quelques exemples de, voilà, qui peuvent être frappants ou symptomatiques ou illustratifs de notre propos.
Alors, je vais vous prendre
vous dans votre cabinet.
Oui, alors l'exemple d'un couple, chacun avait, enfin lui avait vécu une vie conjugale, je crois de 10 ans avec sa première femme, deux enfants, donc divorce, et quelques temps après, il rencontre une maman de l'école avec laquelle il s'entend très bien et ils vont donc tomber amoureux. Elle a eu deux expériences de vie conjugale avec un enfant avec chaque homme, et ce sont des expériences qui n'ont pas duré très longtemps et qui ont été un peu douloureuses. Donc tous les deux décident donc de s'engager, avaient vraiment un réel désir d'engagement. Et ben ils arrivent dans mon cabinet au bout de 2 ans, disant ben on est très heureux en couple, mais alors avec les enfants c'est extrêmement compliqué. Ils ont réussi à faire des gardes alternées qui permettent d'avoir les enfants la même semaine ensemble, et donc ils ont une semaine sans les enfants. Ce que je dis souvent, c'est que ça fait un peu le couple en garde alternée presque. Donc ça, il faut arriver à le déjouer. Et donc ils sont arrivés en disant ben voilà, on s'entend très bien, mais alors les enfants, ça vient à chaque fois mettre le bazar dans notre vie conjugale. Et donc en disant ben c'est à cause des enfants. Ce à quoi je réponds à chaque fois, non, les enfants, ils n'y sont pour rien. C'est vous, comment votre dialogue en tant qu'homme et femme peut s'approfondir suffisamment pour que vous arriviez, en tant qu'adulte, à faire face aux enfants et à les accompagner. Les enfants viennent tout juste mettre le doigt sur une faille. Donc finalement, c'est ça qui est aussi fragilisant pour les couples qui se recomposent. C'est que quand ils ont en face des enfants qui comprennent la souffrance, qui ont déjà expérimenté ça, ils vont le jouer. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher le père ou la mère et le beau-parent pour essayer de les déstabiliser. Donc ça demande au couple en face d'être non seulement fort dans sa vie conjugale et aussi dans sa posture d'adulte.
Est-ce qu'on peut dire un mot des familles monoparentales ? Parce que donc il y a 9,8 millions d'enfants, en tout cas c'est les chiffres de 2013, qui vivent dans des familles donc dites traditionnelles ou souches, puisqu'il faut dire comme ça maintenant. 2,5 millions dans des familles monoparentales et 1,5 million dans des familles recomposées. Les divorces ne donnent pas toujours lieu à des remariages ou à des deuxièmes vies de couple. Les familles monoparentales, ça reste une part très importante.
Alors, il y a la plus grande partie des familles monoparentales, je crois que c'est 86%, ce sont des femmes qui ont la garde de leurs enfants. Donc, ce sont des situations qui sont compliquées. Souvent, il y a un appauvrissement. Les femmes ont à gérer en même temps une vie professionnelle et une vie familiale, ce qui est assez épuisant, très stressant. Et ce sont des femmes qui souvent font le choix de ne pas se remettre en couple. Ou alors elles ont des aventures un petit peu à côté. Elles font le choix parce qu'elles privilégient leur rôle de maman et que finalement, affectivement, elles s'en contentent. Ça leur convient très bien. Souvent, elles réalisent qu'elles ont elles-mêmes un épanouissement affectif à vivre, mais une fois que les enfants quittent la maison. Alors que les hommes, donc qui ont moins la garde des enfants, eux refont leur vie du coup beaucoup plus rapidement et facilement. Quand ce sont les hommes qui ont la garde exclusive de leurs enfants, là on a tous les cas de figure. J'ai eu des hommes dans mon cabinet qui ont fait le choix de ne pas refaire leur vie non plus et qui ont voulu tout donner à leurs enfants. Et d'autres au contraire qui se sont sentis un peu seuls dans l'incapacité à gérer et qui ont eu besoin de refaire une vie de couple.
Et donc il s'agit de 14% des familles monoparentales où le parent est le père qui a donc la garde principale. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler des parents et surtout peut-être des enfants. En tout cas, l'un ne va pas sans l'autre, voir comment ces recompositions peuvent se vivre de la manière la plus heureuse ou la plus juste possible.
cielo y tierra, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los infiernos, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos.
Al tercer día. A los cielos,
subió a los cielos,
está sentado a la diestra de Dios. Espíritu Santo,
Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos y el perdón de los pecados,
resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén, 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 amén.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite couple, vite famille, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, et on va dire le sous-thème, puisque c'est un terme un peu générique, aujourd'hui les familles recomposées. On est avec Marie-Aude Binet, sexologue, conseillère conjugale et familiale, ce matin, puisque son compère est au fond de son lit. On va commencer par, donc dans cette deuxième partie, après cette introduction, on va dire, un peu historique, sociologique, et en nous faisant part de quelques situations types que vous rencontrez dans votre cabinet, l'idée est de donner des outils à tous ceux qui sont concernés, qui nous écouteraient, ou ceux qui sont des proches et qui peuvent du coup en parler avec eux. J'aimerais qu'on commence par les enfants. Voilà, souvent, je trouve dans les sujets de société, on parle beaucoup des parents et puis on ne commence pas par les plus fragiles, les plus exposés que sont les enfants. J'ai lu en parcourant la presse qu'il y avait au cœur de l'enfant en fait une grave difficulté, c'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Est-ce que vous pouvez expliquer, Marie-Aude Binet, ce qu'est le conflit de loyauté ? Que se passe-t-il dans la tête de ces chérubins en cas de recomposition familiale ?
Alors d'abord, ça se passe au moment de la séparation. C'est-à-dire que l'enfant, d'abord souvent, ne connaît pas les raisons réelles de la séparation de ses parents. Il est bien trop jeune pour les conceptualiser. Il a besoin d'un minimum d'explications, mais en fait, il ne peut pas tout entendre et tout comprendre non plus. Et en fait, l'enfant est toujours dans un...
Il n'est pas bon qu'il ne...
Il y a des choses, c'est pas bon qu'il les sache. Non, voilà. On peut attendre longtemps. Qu'il soit adulte, à la rigueur, hein, mais voilà. En tout cas, l'enfant est toujours tiraillé en se disant « Mais il va falloir que je fasse un choix. Et pourtant, j'aime papa et j'aime maman. Comment je pourrais choisir ?» Et alors, ce qui est terrible, c'est que quelquefois, des parents, au moment de la séparation, demandent à leur enfant « Tu voudrais aller vivre chez qui ?» Alors ça, c'est vraiment la question à bannir, parce que l'enfant, c'est impossible pour lui. Il serait dans un sentiment de trahison ou de non-amour vis-à-vis du parent chez qui il n'irait pas vivre. C'est pour ça que les juges sont là, ou les avocats sont là, pour aider à décider de la résidence des enfants. En tout cas, l'enfant est dans ce conflit de loyauté, c'est aussi un conflit affectif. Il aime ses deux parents et il a envie d'être aimé par ses deux parents. Donc il ne peut pas choisir, ce qui fait qu'il va sentir la souffrance de l'un ou la souffrance de l'autre. Il y a des enfants qui vont se culpabiliser, d'autres qui vont essayer de guérir ou de soulager, réconforter le parent qui lui semble le plus en souffrance. Donc c'est très complexe de ce point de vue-là pour les enfants. Après, chaque enfant va réagir différemment. Il y en a qui vont se protéger, d'autres au contraire qui vont énormément s'impliquer. Et puis ça va dépendre de son âge. Si l'enfant a 6 mois ou si l'enfant a 15 ans, la réaction sera totalement différente.
Et ce, d'autant plus s'il y a des critiques aussi qui sont formulées par l'un ou l'autre des compagnons, non ?
Voilà, par l'un ou l'autre des compagnons ou par les familles respectives des parents. Parce que les familles aussi, quelquefois, s'en donnent un peu à cœur joie et peuvent se permettre, malheureusement, de critiquer l'autre parent sans se rendre compte de l'impact que ça a sur l'enfant qui aime son parent et qui va de toute façon vouloir le protéger.
Alors comment aider les enfants à sortir de ce conflit de loyauté ?
Alors ça, c'est une attitude justement parentale. Déjà, dès l'annonce de la séparation, il y a une manière d'annoncer la séparation aux enfants. Et ensuite, il y a, pendant tout le temps de la séparation et l'après-séparation, comment chaque parent va accepter de rester dans un lien parental avec l'autre. Le couple conjugal est terminé, le couple parental continue jusqu'à ce que les enfants, entre guillemets, n'aient plus besoin de l'accompagnement. Et ça, c'est, je dirais, de l'intelligence de cœur, mais aussi de l'intelligence de par l'engagement que chaque parent a pris en désirant cet enfant. Donc c'est maintenir un dialogue, c'est se préoccuper de l'enfant, essayer d'avoir quand même une concordance et une cohérence éducative, surtout s'il y a une garde alternée, ce qui peut parfois être compliqué, et de pouvoir être dans une clarté vis-à-vis de l'enfant. T'inquiète pas, je vais en parler à ton père, t'inquiète pas, je vais en parler à ta mère. Voilà. Et du fait de permettre à l'enfant de ne pas être en permanence entre les deux parents.
Vous disiez au début de votre propos sur ce sujet qu'il y a des choses à dire et à ne pas dire. Alors pour ceux qui nous écouteraient, qui sont concernés et qui peut-être ont l'impression d'avoir dérapé, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire et ne pas dire en général à des enfants en cas de séparation ?
Alors ça dépend toujours du contexte de la séparation, mais on ne va peut-être pas aller raconter à l'enfant « Écoute, ta mère, elle a eu 3 amants et puis... » Non. Voilà, on va pas aller lui raconter ça. On va pas aller non plus au moment de l'annonce dire c'est ton père qui a décidé de partir, c'est lui qui m'abandonne. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent énormément blesser l'enfant.
On ne fait pas porter à l'enfant en fait des choses qu'il ne peut pas porter.
Exactement.
Ou la responsabilité de la séparation.
Tout à fait, et on ne le mêle pas à l'histoire des adultes. Donc, il peut entendre, papa et moi, nous ne nous aimons plus, tu vois bien, on se dispute énormément, on a du mal à communiquer, etc. Ok, tout ça, on peut le dire. Mais après, on ne va pas plus loin. Après, quand un enfant a 18 ans ou 20 ans, on peut aller plus loin, parce que là, il devient adulte, et même, il va vouloir comprendre. Et ça va être nécessaire pour que lui-même fasse le deuil de ce couple qu'il a toujours connu.
J'ai cru comprendre aussi qu'il était important, en cas de conflit, que le parent qui est lésé se batte et signifie aux enfants qu'il se battait pour une garde juste, alternée, etc. Que c'était très important pour l'enfant de lui signifier ça. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ?
Oui, alors en fait, encore une fois, quand il y a une séparation, l'enfant vit le conflit de loyauté, mais il peut aussi ressentir de l'abandon. Il y a un parent qui part, les parents ne veulent plus rester ensemble, et moi, l'enfant, qu'est-ce que je deviens ? Donc il a besoin de sentir que ses parents l'aiment suffisamment fort pour avoir envie de continuer à le voir. Souvent, je le dis, les parents n'ont pas choisi de ne plus voir leur enfant tous les jours. A priori, quand on met un enfant au monde, c'est pour le voir tous les jours. Donc les parents souffrent de ne plus voir leur enfant tout le temps. L'enfant, il n'a pas choisi d'arriver dans cette famille, et il a encore moins choisi de ne plus voir ses parents non plus. Donc il y a ce besoin d'amour que l'enfant continue de dire, et de voir le parent qui se bat pour le voir, c'est réconfortant, c'est-à-dire papa ou maman m'aime, et fait tout pour continuer à me voir.
Maintenant, si on se penche sur les couples de ces familles recomposées, vous le disiez dans la première partie de l'émission, vous parliez, je crois, de familles recomposées en garde alternée ou de couples en garde alternée. Bref, le propos est de montrer ou de souligner qu'il est difficile en fait de reconstruire une vie de couple quand on a géré donc une crise, parfois qu'il faut continuer à solder, peut-être des deuils aussi à faire et des enfants au milieu de ça, voire parfois des des nouveaux enfants. Alors comment aider les couples qui se recomposent, quels conseils leur donner pour essayer d'avoir une vie, une vie de couple, on va dire, normale, enfin solide.
On est sur des liens qui s'additionnent. Hein, c'est pas des liens qui se substituent, ce sont des liens qui s'additionnent. Donc faut arriver à gérer tous ces liens en même temps. Donc comme vous dites, il y a le lien avec l'ex. Le deuil a-t-il été le fait ou pas? Est-ce qu'il y a toujours un conflit qui dure même si le divorce a lieu, la séparation a eu lieu depuis longtemps? Et puis, en effet, il y a la recomposition, donc enfin le fait de créer un nouveau couple et d'établir des bases solides pour durer dans le temps. Et en même temps, le fait, si chacun a des enfants, il faut arriver à mettre en commun une éducation quand les enfants sont là. Et ça, ça peut être extrêmement compliqué. Et ensuite, ben, il peut y avoir en effet la naissance d'un nouvel enfant. Donc ça veut dire que finalement... comment arriver à garder un équilibre dans ce contexte où chacun arrive un peu d'horizons différents. Donc le nouvel enfant, le couple qui s'est recomposé et qui a un nouvel enfant, celui-ci va-t-il être éduqué de manière identique ou pas? Est-ce qu'il va y avoir une place privilégiée qui va lui être faite ou pas? Ça peut créer des jalousies chez ses demi-frères et demi-sœurs. Mais les jalousies, elles peuvent être entre les enfants de chaque ex-foyer qui sont mis ensemble. Et alors là, l'homme et la femme vont avoir ils vont éduquer d'une manière tellement différente que ça va créer des jalousies, des sentiments d'injustice et un conflit dans le couple, du coup. Oui, mais moi, je dis à ma fille d'aller se coucher à 20h et toi, ton fils, il peut y aller à 21h. C'est pas possible. Et donc, c'est là que souvent, il y a besoin d'instaurer un dialogue pour construire une nouvelle façon de vivre ensemble.
Mais alors, si on s'attarde juste sur le couple, comment, au milieu, on va dire, de toutes ces contraintes, arriver à construire une vie de couple? Il faut tout simplement l'avoir en tête, prendre du temps, s'autoriser à prendre du temps.
C'est très exigeant parce que souvent, alors en plus chez les femmes que chez les hommes, mais il y a souvent une culpabilité de laisser les enfants pour s'occuper de son couple. Les pauvres, on les voit déjà pas tout le temps. Donc si quand ils sont là, on s'absente, ou si on prend du temps pour nous, c'est pas juste. Il y a une énorme culpabilité chez les parents à privilégier à un moment donné leur couple. Donc comme je leur dis, si vous mettez votre couple en garde alternée, ça va être compliqué de le construire. Même dans une famille recomposée, les enfants ont besoin de sentir que le couple est solide, que le couple s'aime, que le couple est serein. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas les enfants qui sont responsables des conflits dans ces cas-là, c'est les parents qui ont du mal en tant que couple à prendre du temps pour se construire et se solidifier. Donc c'est prioritaire, c'est toujours, qu'on soit en famille traditionnelle ou en famille recomposée, le couple reste une priorité.
J'ai souvenir du père Michel Martin Prével, qui intervient souvent à cette antenne, à l'occasion d'une émission sur le veuvage, qui disait la chose suivante, il conseillait même aux personnes qui étaient en plateau, hein, et à l'adresse aussi des auditeurs, de ne pas se relancer dans une aventure conjugale tant qu'on n'a pas fait le deuil de l'histoire de la personne qui est partie. Est-ce que la conseillère conjugale et familiale que vous êtes donnerait quelque part le même conseil?
Oui, je donnerais le même conseil. Alors, toujours pareil, hein, ça dépend des contextes conjugaux, ça dépend des contextes de la séparation. Il faut quand même, minimum, en tout cas par expérience de ce que je vois, et les avocats, je pense, diraient à peu près la même chose, il faut minimum 2 ans pour faire vraiment le deuil d'une relation qui a duré longtemps. Si elle a été courte, c'est un peu différent. Parce qu'il y a le temps vraiment de digérer l'histoire, il y a le temps de digérer la séparation et d'accepter que l'autre existe toujours. Contrairement à un veuvage, l'autre existe, donc c'est difficile de faire le deuil de quelqu'un qui est toujours vivant. Et en plus, il y a des enfants qui rappellent que l'autre est toujours là, puisqu'il y a une garde alternée, et les enfants se font souvent un malin plaisir de ramener la vie de l'autre chez le parent. Donc tu sais, avec papa, la semaine dernière, on a fait ça. Et il faut arriver aussi à faire comprendre à l'enfant que ce qui se vit chez papa, c'est chez papa, ce qui se vit chez maman, c'est chez maman. Et l'enfant va avoir beaucoup de mal à arrêter de jouer ce jeu-là parce qu'il a besoin symboliquement en permanence de remettre papa et maman ensemble.
Alors si on prend un troisième point donc pour cette deuxième partie, troisième point de conseil, c'est la place du beau-parent. C'était dit qu'on allait se pencher là-dessus. J'ai vu une première chose, surtout quand on est un beau-parent, le compagnon de madame qui a déjà des enfants, ou à l'inverse, attention à ne pas demander à ce que, ça paraît bête, hein, mais à ce que les enfants qui ne sont pas les nôtres nous appellent papa ou maman. Non,
c'est une priorité.
Ça tombe sous le sens ou...
Alors, en fait, c'est très très rare que ça arrive. Je pense qu'aujourd'hui, par respect pour l'enfant, et puis de toute façon l'enfant l'accepterait très mal de lui-même, il y a toujours son parent vivant, toujours son parent avec lequel il est en lien, donc il y a un papa une maman. Par contre, il peut y avoir la création d'un lien affectif avec le beau-parent. Il y a une différence entre le beau-parent, le beau-père et la belle-mère. Les beaux-pères souvent restent à distance et se mettent rarement dans l'éducatif. Ou quand ils s'y mettent, la mère va souvent leur demander de se remettre à nouveau en retrait.
Pourquoi ?
Parce que elles sentent bien que l'enfant vit ça comme une injustice. Ce beau-père est gentil, d'accord, mais il n'est pas le père, donc il n'est pas légitime, entre guillemets, dans son autorité. Qu'il soit un référent, qu'il puisse de temps en temps donner des conseils, même qu'il puisse être confident, pourquoi pas. Mais le volet éducatif ne lui appartient pas. Donc la mère, souvent, elle est dans une protection de son enfant et en même temps, c'est elle qui doit permettre que le père ait toujours sa place.
Voilà, et pour autant, il ne faut pas devenir le beau-père copain.
Exactement. Alors ça, mais la mère, elle est toujours vigilante aussi par rapport à ça. Souvent, elle l'accepte mal hein, s'il y a ce genre de relation trop proche. Et de toute façon, l'enfant n'appréciera pas non plus. Et ensuite, les belles-mères, elles, par contre, elles ont un investissement parfois qui est trop important, c'est-à-dire qu'elles se mettent à être la mère. Du coup, l'enfant le vit très mal parce qu'il ne se sent plus respecté et souvent, il a tendance à se plaindre de cette ingérence de cette belle-mère qui voudrait prendre la place de la mère alors qu'elle existe. Et ça vient créer des conflits dans le couple parental parce que, en fait, la mère vient se plaindre en disant « ta femme, ta nouvelle femme, elle prend ma place. Alors, s'il te plaît, calme-la, entre guillemets, parce que c'est pas possible. » Et ça, c'est souvent très mal vécu par les belles-mères qui ont la sensation de faire tout ce qu'elles peuvent, de beaucoup donner. Elles pensent que c'est pour le bien de l'enfant. Et souvent, en fait, ça amène des conflits.
Alors, pourquoi la société essaye de définir un statut du beau-parent ? Ça revient souvent dans la presse. On en parle aussi souvent à l'occasion de l'évocation des familles homoparentales. J'ai vu donc qu'il y avait deux formes de délégation. La délégation donc partielle ou totale, la délégation même volontaire ou de partage. Enfin, les deux, tout ça est défini par le Code civil. Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ce terme de beau-parent ? Qu'est-ce que la loi propose et pourquoi la loi s'en occupe ?
La loi ne donne pas d'autorité parentale aux beaux-parents, d'accord ? Il faut être très clair par rapport à ça. Par contre, dans cet article de loi, elle dit qu'il peut y avoir un soutien par un tiers qui peut être apporté à un des parents avec l'accord de l'autre parent. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que le juge ne va pas imposer l'aide et le soutien dans la vie quotidienne si l'autre parent n'est pas d'accord. Alors, le beau-parent, sa place, c'est d'abord d'être un référent. Il n'est pas le parent, mais il est un référent. Et un référent qui a réellement sa place. D'abord parce qu'il y a une vie quotidienne. Quand il y a une nouvelle famille, il y a des nouvelles règles de vie, de vivre ensemble. Donc le beau-parent a pleinement sa place dans l'autorité par rapport à ça. C'est comme un prof qui a de l'autorité dans sa classe pour faire respecter le silence, faire en sorte qu'on respecte les horaires d'entrée et de sortie dans la classe, etc.
Donc pour les choses de la vie courante, et pas les choses importantes.
De la vie courante, le beau-parent a de l'autorité. C'est-à-dire que il est chez lui, on met la table, on débarrasse, on range sa chambre. Ça, c'est tout à fait naturel qu'il puisse en dire quelque chose. Par contre, sur le choix du collège, sur la manière peut-être de s'habiller, sur les fréquentations, des choses comme ça, ça reste de l'éducatif de la part des parents.
Alors, la délégation de partage, Code civil, 4 mars 2002, le tiers délégataire donc, peut se voir donc, déléguer une partie de l'autorité pour les besoins de l'éducation de l'enfant.
Oui, avec l'accord de l'autre parent.
Vous admettrez que c'est un peu... On peut mettre beaucoup de choses derrière
oui,
ça.
Oui, mais c'est pour ça que dans ces jugements, il y a des précisions qui sont apportées. Le juge, c'est sur des points particuliers qui ont été en demande ou qui paraissent nécessaires pour le bien de l'enfant. J'insiste beaucoup là-dessus, que ce soit dans une séparation, dans une médiation ou dans quelques difficultés où les services sociaux pourraient intervenir, la priorité, c'est le bien de l'enfant.
Et alors, faut-il ou peut-on avoir confiance dans de tels propos ? Parce que un certain nombre, je pense, d'auditeurs s'inquiètent d'une forme de brouillage, on va dire, de la filiation, peut-être d'une place du beau-parent qui serait excessive et qui se ferait au détriment de l'un ou l'autre parent. Est-ce que votre expérience est contraire ?
Je reste très confiante parce que, vraiment par expérience, aucun parent n'a envie de dédire l'autre parent. Alors, il peut y avoir des conflits, hein, mais de là à vouloir rayer l'autre parent, ça, j'ai jamais entendu. Et puis, les parents ont quand même envie de garder un lien avec leurs enfants. C'est quand même extrêmement rare, ou qu'un père ou qu'une mère ne veuille plus du tout avoir de lien avec son enfant. C'est quand même des situations très, très rares.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler de la médiation et puis pour essayer de voir si au milieu de ces difficultés, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles ou des bonnes surprises pour ces enfants.
Plaisance, à Saint-Gaudens, 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite coup, vite famille, c'est donc le thème pour rappel de cette émission Vivante Église ce matin. Ces émissions donc que l'on fait de temps en temps, à peu près tous les deux mois. Aujourd'hui, le thème, c'est donc les familles recomposées. Je voulais juste citer un chiffre que j'ai trouvé en préparant l'émission. Dans les années 50, il y avait 430 000 unions par an pour 40 millions d'habitants, unions donc mariage civil. Aujourd'hui, donc, il y en a un peu moins de 280. Je crois que c'est un chiffre qui doit dater d'il y a à peu près 5 ans pour 60 millions d'habitants. Et les mariages religieux aujourd'hui ne représentent plus que un tiers des mariages civils. Voilà, ça permet quand même de poser un peu le décor. Il s'agit pas d'être alarmiste, mais de dire la réalité. Dans cette dernière partie d'émission, vous vouliez continuer à donner des pistes. Marie-Aude Binet, donc sexologue, conseillère conjugale et familiale, et souligner d'abord l'importance de la médiation. Alors la médiation, on y pense quand il y a un conflit, peut-être moins quand le conflit est passé, quand l'heure est à la séparation ou à la recomposition. Vous vouliez d'abord nous dire que l'État accompagne ces recompositions familiales. Expliquez-nous.
Alors en fait, il y a en situation de conflit, ou en tout cas quand il y a une difficulté à se positionner en tant que couple parental autour de l'enfant, il y a plusieurs pistes qui sont offertes aux parents pour arriver à trouver des bonnes attitudes et en tout cas privilégier l'enfant dans sa croissance et pouvoir l'accompagner au mieux dans l'autorité. Alors il y a au niveau de l'État les services d'aide éducative, donc il y a la possibilité d'aller voir l'assistante sociale, ce sont les unités territoriales d'aide médico-sociale qui sont donc dans toutes les circonscriptions.
Et, comment ça s'appelle, vous dites, pardon ?
Les UTAMS, unités territoriales d'aide médico-sociale. Et donc on peut contacter une assistante sociale qui va faire une enquête, qui va évaluer le besoin, et il peut y avoir la mise en place par le département d'une aide éducative avec un éducateur, un psychologue qui va accompagner les parents, leur permettre de se parler, qui va aussi voir l'enfant pour lui permettre de s'exprimer et voir comment trouver des compromis au niveau de l'éducation de l'enfant pour que des décisions parentales puissent être prises en commun.
C'est difficile de faire rentrer un tiers comme ça dans une famille, non ? Est-ce qu'on ne renacle pas à ce type d'aide tant qu'on n'est pas au pied du mur ?
Alors, soit c'est le juge carrément au moment de la séparation qui va le demander, parce qu'il peut y avoir une mesure de protection de l'enfant, soit ce sont les parents qui d'eux-mêmes peuvent faire cette demande, et ça peut être quelquefois que l'un des deux conjoints. En tout cas, les deux doivent donner leur accord pour que ça puisse se mettre en place. Ensuite, il y a aujourd'hui, il faut le savoir, des éducateurs indépendants, puisque maintenant c'est une profession qui devient indépendante, et donc des éducateurs qui peuvent être interpellés comme des psychologues, comme des conseillers conjugaux, etc., pour aider les parents dans leur charge éducative. Voilà, et ça, on est souvent très peu au courant.
Alors ça, c'est avant la séparation et après la séparation,
oui.
Les deux.
Alors souvent, on fait appel à eux après la séparation, mais en tout cas, ils existent et on peut donc les contacter. Ils seront sous forme d'honoraires, ils ne sont pas pris en charge par le département pour le coup, mais en tout cas, ils peuvent apporter cette aide au niveau parental. Et ensuite, il y a les médiateurs, en effet, dont vous parlez, ou les conseillers conjugaux qui sont là pour aider les couples, soit les parents, donc séparés, soit les nouveaux couples qui ont besoin de se mettre d'accord pour l'éducation des enfants.
Alors, réexpliquez-nous ce qu'est un médiateur, Marie-Aude Binet.
Alors, un médiateur, il est là. Je vais donner une définition très large et assez grossière. Mais il est là pour permettre à chacune des parties de s'exprimer totalement sur, en même temps, ses insatisfactions et aussi ses besoins, ses attentes, et que chaque partie puisse formuler une ou plusieurs demandes. Et le médiateur va permettre ensuite de mettre en commun tout ça et de voir quelle solution satisfaisante et pour l'une et pour l'autre des parties puisse être trouvée.
Voilà, donc c'est à différencier de la médiation judiciaire, non ?
Alors, en fait, la médiation judiciaire, alors aujourd'hui, on est sur une médiation, enfin le principe de la médiation, il est le même. Voilà. On peut avoir une médiation qui est demandée par le juge, mais on peut faire la demande de médiation soi-même.
Est-ce que la plupart des couples ont tendance à ne pas assez prendre les devants de ce type d'aide? Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous conseillez pas, en fait, de, on va dire, de le faire avec simplicité et de pas attendre d'être dans des situations impossibles?
Alors, quand les couples ont déjà vu un conseiller conjugal au moment de leur crise conjugale, avant de prendre la décision de divorce, souvent la médiation, elle a déjà commencé à ce moment-là avec le conseiller conjugal et elle peut se poursuivre avec lui. Pour des couples qui n'ont pas fait cette démarche-là, et quelquefois qui viennent me voir après, quand il y a un seul des conjoints qui vient me voir en disant « je n'y arrive pas avec le parent de mon enfant », à ce moment-là, je fais cette proposition de dire « écoutez, peut-être qu'une médiation serait intéressante ». Et quelquefois, ce sont les avocats, de toute façon, qui la proposent aussi, puisqu'il y a quand même des décisions à prendre. Et même si le divorce ou la séparation a déjà eu lieu, il peut y avoir à nouveau des problématiques, notamment au moment de l'adolescence des enfants.
Dans les deux médiations que vous décrivez, il y a quand même une différence, c'est que la première, elle concerne les enfants, alors que la seconde ne les concerne pas forcément. Là aussi, je ne sais pas, est-ce qu'il faut
faire... Ça concerne toujours les enfants, puisque...
Les enfants ne sont pas forcément présents lorsqu'il y a une médiation entre les parents.
Ah non, c'est... là, les enfants ne sont pas présents, par contre. Quand je parlais tout à l'heure de l'aide éducative au niveau départemental, les enfants, souvent, sont pris en compte et sont entendus, voilà, quel que soit leur âge. Par contre, dans la médiation d'adultes, en principe, l'enfant n'est pas entendu, sauf si le médiateur ou sauf si le juge, si c'est une médiation demandée par le juge, l'a souhaité. Voilà. Mais si on reste sur quelque chose de totalement éducatif, rarement l'enfant est entendu.
Pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire s'il peut y avoir des bonnes surprises à ces recompositions familiales? Alors la première qu'on aurait envie peut-être de souligner, c'est que s'il y a eu crise conjugale, on peut imaginer que parfois c'est un peu au corps défendant des deux conjoints et que les deuxièmes unions... il ne s'agit pas de comparer, hein, comparaison n'est pas raison voire poison, mais que les deuxièmes couples sont des couples quoi, plus solides, plus matures.
Alors plus matures la plupart du temps, avec vraiment une implication beaucoup plus, alors je ne dis pas réelle parce que ce serait, c'est pas pour dénaturer le premier couple, mais en tout cas plus consciente. Et du coup, une réelle, en effet, prise de conscience des efforts à faire et du travail sur soi qui est nécessaire. Du coup, il y a une remise en cause personnelle qui est beaucoup mieux acceptée. Un travail du coup personnel ou conjugal qui aussi est mis en place. Et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle parce que finalement, ces adultes qui viennent de vivre un traumatisme dans leur vie, qui sont blessés, acceptent de grandir. Et c'est un service à rendre à l'enfant. Toute séparation fait grandir. Notre vie est parsemée de séparations. Chaque séparation, entre guillemets, oblige psychiquement, psychologiquement, affectivement de grandir. Et donc les séparations conjugales obligent à ça. Et si le parent accepte ce changement-là, il va aussi permettre à l'enfant lui de grandir beaucoup plus sereinement. Et quand le parent n'arrive pas à faire cette croissance, mais l'enfant, c'est tout simplement là qu'il va venir mettre le doigt et va déstabiliser le parent.
Est-ce que vous y voyez d'autres avantages à ces recompositions familiales côté parent?
Alors, côté parent, c'est aussi le fait de se reposer les bonnes questions en termes de transmission. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, puisque je suis quelque part, et notamment pour les parents qui sont eux-mêmes chrétiens et qui vivent du coup une blessure aussi, hein, d'un point de vue de leur sacrement de mariage et de l'engagement qu'ils avaient pris de ce point de vue-là, beaucoup se disent, finalement, je leur montre l'inverse, je montre l'exemple inverse de ce que je leur ai dit. Est-ce que pour autant, ça dévalorise mon discours? Donc il y a tout un repositionnement, tout un requestionnement de valeurs, et aussi comment je continue la transmission. Et ça, c'est aussi très riche parce que ça permet de retrouver, de faire un travail sur quels bons mots, d'accepter aussi les failles qu'on peut avoir, les erreurs, et de pouvoir les dire. Voilà, en tant qu'adulte, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. N'empêche que j'y crois toujours, n'empêche que pour moi le couple a toujours une valeur importante. Et les enfants, quelquefois, ça les rassure quand les parents reprennent une vie conjugale. Parce qu'en effet, ils voient que tout n'est pas terminé et que le parent y croit encore.
Alors côté enfant, est-ce qu'il peut y avoir au milieu de ces difficultés, de ces drames, des bonnes surprises? Si oui, quelles sont-elles?
Alors, dans le cadre d'une famille recomposée, l'enfant a une ouverture sociale qui est très importante. Il y a donc un nouveau beau-parent qui va lui apporter une autre vision du monde, une autre façon de voir la vie, d'autres expériences, des demi-frères et des demi-sœurs qui sont éduqués autrement et qui vont du coup lui permettre aussi de se repositionner, de se poser des questions sur ce qu'il a reçu et aussi ce qu'il aimerait vivre. Et puis, il y a des grands-parents, et puis, enfin, d'autres grands-parents, il y a d'autres oncles et tantes. Donc, il y a une ouverture sur quelquefois un autre milieu social. Voilà, il y a d'autres perspectives. C'est très enrichissant. Après, il y a aussi le fait de pouvoir grandir aussi dans cette richesse-là et de se questionner. Les adolescents qui vivent dans des familles recomposées ne vivent pas forcément des crises d'adolescence pires que chez les autres. En tout cas, ils ont...
Pourquoi ? Parce qu'ils ont été obligés de grandir beaucoup plus tôt.
Alors, certains sont obligés de grandir plus tôt, mais en fait, ça dépend à quel âge le divorce des parents a eu lieu. S'ils étaient petits, l'adolescence se passe, je dirais, un peu traditionnellement. Si le divorce s'est passé au moment de l'adolescence, par contre, ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, l'adolescent va être amené, du coup, à se poser des questions beaucoup plus profondes, parce qu'il va remettre en cause encore plus de choses qu'il a reçues, et il va chercher à se confronter davantage aux autres adultes. Donc c'est ça qui est intéressant en termes de curiosité, en termes d'esprit critique. Et ensuite, il y a cette parentalité biologique auquel l'enfant tiendra toujours, qui restera importante. Et j'accompagne suffisamment d'adultes qui ont vécu le divorce de leurs parents et qui, encore à l'âge de 40 ans, sont attachés à cette parentalité biologique et qui ont besoin de se réconcilier, de vivre une relation sereine avec leurs parents biologiques et qui, en même temps, sont très attachés aux liens affectifs qu'ils ont créés avec le beau-parent. Donc, finalement, il y a un apprentissage des liens affectifs qui se fait autrement et qui est assez intéressant dans le cadre de la socialisation.
Alors ça, c'est le volet socialisation. Vous vouliez souligner aussi un autre avantage qu'il peut y avoir à ces situations difficiles, c'est qu'on dit souvent qu'il faut des tiers dans l'éducation d'un enfant, qu'on fait grandir un enfant, enfin qu'il faut un village pour faire grandir un enfant et pas seulement peut-être un papa et une maman. Là, en l'occurrence, il y a des tiers qui s'imposent, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle.
Oui, alors il y a des tiers avec lesquels c'est compliqué et puis il y en a d'autres, au contraire. J'ai des témoignages d'adultes qui peuvent dire j'ai pu compter sur mon beau-père, j'ai pu compter sur ma belle-mère, j'ai pu parler et qui peuvent être des références sur certaines valeurs ou sur certains modes de vie, donc qui ont été positivement constructifs.
Pour finir, Marie-Aude, que dire de l'accompagnement de l'Église de ces familles recomposées ? On a l'impression qu'avec donc l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia, qui a fait tant de bruit dans l'Église, qui a, il faut le rappeler, sous certaines conditions et moyennant accompagnement, donc ouvert la possibilité, dans certaines circonstances, je le rappelle, d'un accès au sacrement de personnes divorcées et remariées, que ça a été l'occasion pour l'Église, donc entre autres pour l'Église de France, de se réinterroger sur l'accompagnement qu'elle a à l'égard de ces familles recomposées. Posez-vous, qu'est-ce que vous en voyez de cette nouveauté ?
Alors, je pense que ça permet de lever un tabou et d'arrêter d'être aveugle sur cette réalité sociale
sociétale. C'était le cas, vous le trouvez, un petit peu dans l'Église ?
Oui, et même dans des familles. Dans des familles, ça pouvait être très compliqué d'accepter qu'il y ait une recomposition conjugale et familiale. Et en même temps, ça devient une réalité dans beaucoup de familles. Donc, c'est compliqué de le mettre de côté et d'être sur du non-dit. Et je pense que ça encourage, en tout cas, en tant que chrétien, à être dans une ouverture, d'être dans un accompagnement avec bienveillance, avec compassion de ces situations de souffrance, parce que d'abord ce sont des situations où il y a eu de la souffrance, et ensuite, sans jugement, d'accompagner et d'accueillir ces personnes qui souhaitent reconstruire, qui n'ont pas le désir de rester célibataires. Il y en a qui font ce choix-là, et quelquefois ce sont des personnes qui font ce choix consciemment et en fidélité à leur sacrement de mariage. Et puis il y en a d'autres qui disent voilà, je n'ai pas pour vocation de rester vivre seule, je souhaite vivre une relation de couple. Et quelque part l'Église a, je dirais, tout intérêt, mais en tout cas puisqu'elle valorise cet amour, elle a tout intérêt à accompagner ces nouvelles situations conjugales qui sont vraiment, c'est pas que de la bonne volonté, ce sont des personnes qui y croient et qui ont vraiment envie de fonder un couple qui peut même être en chemin et en respect par rapport à ce que l'Église les invite à vivre.
Ma dernière question, Marie-Aude, ça serait, est-ce que vous diriez, au regard de votre expérience donc d'accompagnement de ces couples, que dans le fond, tous les couples auraient préféré ne pas vivre de divorce ?
Mais bien sûr. personne ne s'engage dans l'idée de « oh, de toute façon, c'est pas grave, dans 20 ans, je divorce ». C'est systématiquement une souffrance, même pour la personne qui a décidé de partir. C'est toujours très compliqué. C'est pour ça que j'invite au non-jugement et surtout à ne surtout pas juger par rapport aux apparences ou ce qu'on a vu du couple. Parce que ça, c'est extrêmement blessant pour les conjoints quand on leur dit bah, « pas vous » et « pourquoi vous » et « c'est pas normal » et puis « ton conjoint aurait pas dû faire ci » puis « toi, t'aurais pas dû faire ça ». Il y a toujours une intimité conjugale que personne ne connaît, des histoires et des blessures que personne ne connaît et qui peuvent être à la source d'une séparation qui arrive tout d'un coup.
Merci beaucoup Mariotte Binet d'être venue au micro de Vivante Église ce matin pour cette émission Vie de couple, vie de famille, à propos donc des familles recomposées. Je sens que c'est un sujet dont on reparlera. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.